Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que tu es venu ce matin, que tu t'attends au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a des bonnes choses. Encore une fois, on veut vous dire merci pour l'opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est bon d'être ici, qu'on puisse être réunis ensemble pour honorer le nom de Jésus. Et si que c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, on veut vous dire la bienvenue dans le nom de Jésus, que vous puissiez vous sentir en famille. Et si ça fait déjà plusieurs fois que vous venez ou que ça fait des années que vous venez, bien, soyez vraiment, que vous puissiez ressentir l'amour de Jésus ce matin. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on tourne dans la parole de Dieu ce matin, dans Marc au chapitre 5. Vous avez votre Bible ce matin et je veux vous encourager, frères et sœurs. Je sais que c'est facile, mais je veux t'encourager à apporter ta Bible à la maison de Dieu. Amen. Apporte ta Bible à ta job. Apporte ta Bible quand tu voyages. Apporte ta Bible partout où tu vas. Mais je crois simplement qu'il y a quelque chose par rapport à lorsqu'on a la parole de Dieu, puis lorsque même des nouveaux viennent à l'Assemblée, qui viennent parmi le peuple de Dieu, qui voient des gens qui ont des Bibles. Pourquoi y aura-t-il des Bibles si qu'ils voient des gens qui n'ont pas de Bible? je sais qu'on a nos appareils électroniques et tout ça, mais je veux vous encourager vraiment sur ce point-là. Apportons notre épée dans la maison du Seigneur. Alléluia. Apportons la Bible, lire la parole de Dieu ensemble. C'est important, c'est nécessaire. Dans Marc, au chapitre 5, on va lire l'histoire simplement du chef de la synagogue, l'histoire de Jaïrus. Ça dit au verset 21, « Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. On va mettre une pause ici juste un instant. Le reste de l'histoire, on connaît que simplement alors qu'il y a une situation urgente dans la vie de Jaïrus, dans sa famille simplement, sa fille était sur le point de mourir, il y a un cri de cœur qui est là, il s'avance près de Jésus, il veut une intervention divine. Et là, dans ce cri de cœur-là, il y a un autre épisode qui rentre, une autre personne qui rentre dans la scène. Et là, c'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. On connaît l'histoire. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et là, simplement, elle a été guérie. Mais c'est dans cette histoire-là, simplement, il y a un autre épisode qui entre là. Et parfois, dans notre vie chrétienne, c'est comme ça, c'est qu'on approche le Seigneur, c'est comme comment se faire ça qu'il semble que l'autre a sa réponse avant moi. Comment se faire ça que l'autre a sa bénédiction avant moi? J'étais le premier à y demander. Et là, simplement, on va sauter au verset 35, qui se trouve juste à la fin de l'épisode où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, a été guérie et tout ça. Et là, on revient à l'histoire de Jaïrus au verset 35. Il dit, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, et j'aime ça, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, qui était le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, Lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Seigneur, on te remercie ce matin, alors que nous sommes réunis ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour célébrer le repas du Seigneur, Seigneur, pour entendre ta parole, pour recevoir de toi. Ce matin, je te prie de parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur, de nous rencontrer là où nous sommes, que ce soit du plus jeune au plus âgé, que tu puisses toucher ce matin, que ta parole puisse être vie, Seigneur, et esprit à nos cœurs, Seigneur, à nos vies, Seigneur. Viens nous rencontrer dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Si on pourrait donner un titre ce matin à ce message, ça serait « Ne crains pas ». Ne crains pas. Voyez-vous, Jaïrus, le chef de la synagogue, c'était un leader. Il a reçu une mauvaise nouvelle. Il a reçu une nouvelle que peut-être qu'il ne s'attendait pas que ça allait aller de la façon qu'il pensait. Il était à Jésus. Il voit le scénario simplement de la femme qui est avec la perte de sang, qu'elle est guérie. Et au milieu de grandes réjouissances, au milieu de grandes bénédictions, et au milieu, même je dirais, au milieu d'un temps d'appel où ce que la personne est touchée, il reçoit une nouvelle et c'était une mauvaise nouvelle. Combien savent qu'une mauvaise nouvelle peut vraiment affecter quelqu'un? On a tous eu des mauvaises nouvelles et probablement qu'on va en avoir dans le futur des mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle, ça peut être un désappointement, une épreuve, un décès, une réjection, un abandon. Une annonce imprévue, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être bien d'autres choses. C'est quelque chose qui va, ou souvent qui nous affecte négativement. Lorsqu'on a des mauvaises nouvelles, c'est rare qu'on va voir les gens qui vont commencer à sauter de joie. Parce que souvent, une mauvaise nouvelle, ça vient nous chercher, ça vient à l'intérieur, ça vient simplement, il y a des choses qui se passent. La directrice à l'époque du Centre d'études sur le stress humain à Montréal, Sonia Lupien, a dit, « Lorsque notre cerveau perçoit une situation menaçante, notre corps commence à produire des hormones de stress qui pénètrent dans le cerveau et peuvent moduler les souvenirs d'événements stressants ou négatifs. » En d'autres mots, c'est lorsqu'on fait face à quelque chose, simplement une mauvaise nouvelle, des craintes, des peurs, il y a quelque chose qui est déclenché en nous. Et parfois, même les hormones qui sont affectées, ton corps même commence à réagir face à une mauvaise nouvelle. Le corps commence même à produire des hormones de stress qui pénètrent le cerveau, qui affectent le corps. Une mauvaise nouvelle peut déclencher des réactions en nous qu'en temps normal, on ne réagirait pas comme ça. Lorsque les soldats arrivent à la porte d'une famille pour leur annoncer la perte d'un être cher au combat, certains ne savent pas quoi dire. D'autres personnes vont rester froides à la nouvelle. D'autres vont rester incrédules et ne croiront pas à ce qu'ils viennent d'entendre. D'autres vont s'effondrer en larmes. D'autres, ils vont avoir une colère intense qui va monter en eux face à cette nouvelle-là. Face à différentes nouvelles, on réagit différemment les uns les autres. Lorsque tu vois quelqu'un réagir d'une façon simplement, parfois c'est facile de juger, parfois c'est facile de sans savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vie, sans savoir que peut-être que nous, qu'on réagirait d'une autre façon face à la même nouvelle. Pratiquement à tous les jours, on a des choses à gérer dans nos vies, où s'il y a du stress, il y a des peurs, c'est une réalité de la vie. Une des phrases qui est plus répétée dans la parole de Dieu, qui est vraiment intéressante, lorsque tu ouvres la Bible, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, une des phrases qui est plus répétée, au-delà de tout ce que tu peux entendre, au-delà de tout ce que tu peux voir, c'est « ne crains pas ». C'est vraiment intéressant lorsque tu regardes ça, juste de penser à ça. La chose qu'il a plus répétée dans la parole de Dieu, c'est « ne crains pas ». Alors que je faisais un peu la recherche par rapport à cela, certains commentateurs ou certaines personnes disaient que « ne crains pas » est simplement vu jusqu'à 365 fois dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est exact ou quoi, mais en tout cas, c'est une opinion d'une personne. Mais je sais une chose, c'est vu des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et je sais une chose aussi, qu'il y a certainement un « ne crains pas » pour chaque jour de l'année. La parole de Dieu est remplie de « ne crains pas ». Psaume 56, 4 dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Ésaïe 12, 2 dit « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. » Dans Ésaïe, simplement 41, 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans Ésaïe 44, 2, il dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. » Peut-être ça pourrait être « Ne crains rien, mon serviteur Gordon. » Ne crains rien, ma servante, et mets ton nom là. Psaume 118, 6, il dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Matthieu 10, 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui vient faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ne craignez pas ceux-là. Abraham a entendu ces mots-là aussi. Ne crains pas. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit « Abraham, ne crains point. » « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, 1. La parole de Dieu est remplie d'individus, de personnes qui ont entendu ces paroles « ne crains pas » et qui ont réassuré. Et je crois aussi qu'au travers les époques, au travers simplement les décennies, au travers les centenaires, que le peuple de Dieu a entendu ces paroles à différents temps, simplement dans leur vie, « ne crains pas ». Ça a été des sources de consolation, des sources de réconfort et des sources de puissance et des sources d'encouragement pour le peuple de Dieu. Alléluia. Agar, qui était une femme, simplement, ça dit que dans Genèse 21, 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel à Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? » Il dit, « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Elle était là, puis elle pensait que c'était fini, qu'il était sur le point de mourir avec son enfant. Et un ange lui est apparu et lui a dit, « Ne crains pas. » Jacob, simplement, dans Genèse 46, 2, c'est-à-dire Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob! » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Aux Hébreux dans le désert, dans Deutéronome 1, verset 21, il dit, « Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. » À Josué, il a dit, l'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. » À Gédéon, il a dit, l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père, dans Juges 6, 23. À la veuve de Sarepta qui était sur le point de tout perdre, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Lorsqu'on entend simplement ne crains point, parfois on a besoin de savoir que la farine ne manquera pas. Parfois, on a besoin de savoir que l'huile ne manquera pas. Certainement que Sarepta avait besoin de savoir. Et j'ai eu besoin de savoir dans ma vie, dans des temps, être encouragé, l'huile ne manquera pas. Fais-moi confiance. Au serviteur de Élie, simplement, dans 2 Rois 6, verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors qu'ils sont environnés, que l'ennemi était tout le tour d'eux et tout ça, qu'il semblait que c'était fini avec eux, que l'ennemi avait le dernier mot. Et soudainement, le serviteur d'Élie qui était paniqué simplement, et là, Élie lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En d'autres mots, il savait qu'il y avait les chariots de feu de l'Éternel qui étaient avec eux. Il savait que si le Seigneur était avec toi ce matin et avec moi, t'es la majorité. Au roi Josaphat et Juda, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » À Zacharie, simplement, dans Luc chapitre 1, verset 13, l'ange de l'Éternel lui a apparu et dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Il dit, « J'ai entendu ta prière, mon frère, ma sœur. Ne crains point. » En d'autres mots, arrête de paniquer, Zacharie. Arrête de t'affoler. « J'ai entendu ta prière. Je t'ai entendu. » La Bible nous dit, « J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. » À Marie, simplement, dans Luc 1, 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Aux bergers, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, 10. Voyez-vous, on a besoin d'entendre ça régulièrement, « Ne crains point. » L'apôtre Pierre a eu besoin d'entendre ça dans sa vie. Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On voit le chef de la synagogue, comme qu'on a lu tout à l'heure, Luc 8, 50, dans un autre évangile. On a lu dans Marc, mais dans Luc, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Paul, le grand apôtre Paul, l'homme de Dieu, l'homme de foi, avait besoin d'entendre, ne crains point. Alors qu'il était sur le point de faire naufrage, qu'il était sur le point de tout perdre, que le bateau était sur le point simplement de tomber en pièces, il était dans une tempête. Acte 27, 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre ces paroles venant du Seigneur. Ne crains point, mon frère, ne crains point, ma sœur. Jean sur l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, il dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds. » Une révélation de Jésus-Christ. Il a vu le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il a vu le roi des rois dans sa majesté. Il avait marché avec Jésus pendant X nombre d'années. Et trois amis, il avait marché, il avait dormi, ils avaient goûté les choses ensemble, ils avaient vu des choses, ils avaient vécu ensemble. Mais lorsqu'il a vu le roi des rois, le Jésus ressuscité, il dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il posait sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Wow! Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça se pourrait-tu que le Seigneur dise à l'église d'Edmundston ce matin, ne crains point? Ça se pourrait-tu qu'il dise aux enfants de Dieu qui sont présents ici ce matin, ne crains point? Ça se pourrait-tu que l'Esprit de Dieu dise à ceux qui écoutent, peut-être en ligne, si qu'on est en ligne ou via l'audio simplement, dit ne crains point? Aux gens de notre région, ne crains point? On a besoin d'entendre, ne crains pas. C'est important d'entendre cela. La parole de Dieu est remplie, comme qu'on a dit tout à l'heure, de ne crains point, ne crains pas, de différentes expressions qui signifient la même chose. Et on a besoin de l'entendre d'une façon régulière. Pourquoi? Parce qu'une des plus grandes armes de l'ennemi est la peur. On a besoin d'entendre, j'ai besoin d'entendre régulièrement dans ma vie, ne crains point, Stéphane. Ne crains point lorsque tu prêches, ne crains point. Ne crains point lorsque tu vas au travail, ne crains point. Ne crains point lorsque simplement que tu as une mauvaise nouvelle, ne crains point. Parce que l'ennemi utilise une de ses plus grandes armes de la peur de l'échec. La peur de perdre quelque chose. La peur du changement. Oh, ça allait un gros. Il y a bien des personnes dans le peuple de Dieu qui n'avancent pas parce qu'ils ont peur du changement. Il y a bien des églises qui n'avancent plus parce qu'ils ont peur du changement. Il y a bien des enfants de Dieu qui ont grandi dans les choses de Dieu qui ne vont pas plus loin, sont stock, sont bloqués parce qu'ils ont peur du changement. Parfois, on a peur de l'intimité, d'être un peu plus intime envers quelqu'un parce que si jamais qu'il me connaît, il va savoir mes mauvais côtés. On me sait que souvent qu'on aime bien montrer nos bons côtés. Mais est-ce qu'on a des bons côtés, on a aussi des... Et c'est ça, c'est là qu'on la beauté de l'Église, qu'on peut grandir ensemble. Tu ne grandis pas lorsque tu vois juste les bons côtés des gens. Dans un mariage, si ça fait plus qu'une journée que tu es marié, tu ne vois pas juste des bons côtés, tu vois des mauvais côtés. Et l'endroit que j'ai grandi le plus dans mon mariage avec mon épouse Tania, c'est seulement qu'on voyait nos mauvais côtés. Oh, ça faisait mal. Oh, que c'était pas facile. Mais c'est là qu'on a grandi. C'est là qu'on a maturé. Une église qui cache les mauvais côtés, c'est une église qui ne grandit pas. Lorsqu'on refuse de voir les mauvais côtés de l'un et de l'autre, on ne peut pas grandir. Parce que ce qu'on va avoir du changement, il faut reconnaître que des bons côtés, que des mauvais côtés. Et dans les mauvais côtés, c'est là qu'on apprend à grandir et développer des opportunités pour donner la grâce et l'amour de Dieu les uns envers les autres. Peur de l'intimité, simplement, c'est quoi? Et même dans un couple, parfois, j'ai peur, tu sais, on ne veut pas trop s'approcher parce qu'on a peur, qu'est-ce que l'autre va dire? L'amitié entre personnes. Les vrais bons amis dans la vie, ce sont ceux qui ont passé au travers les tempêtes de la vie, ensemble. Les vrais bons amis que... Quand tu entends parler que quelqu'un dit, « Ah, moi, ça fait 30 ans qu'il est mon chum. » Même ceux qui sont pas... On a des amis, des fois, que ça fait des années qu'on des bons amis qu'on peut avoir. Ils sont rares, ces bons amis-là, parce que souvent, les bons amis, c'est qu'ils voient les mauvais côtés puis ils restent là pareil. On a besoin de ces amis-là. On a besoin d'être amis de ces amis-là aussi. Que même si je vois quelque chose qui n'est pas bon dans leur vie, que je ne décolle pas à la course, mais je suis là pour simplement pour démontrer la grâce de Dieu, la restauration de Dieu, l'amour de Dieu. Une des peurs parfois que l'ennemi peut utiliser, c'est la peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce que ma famille pense de moi? Qu'est-ce que l'Église peut penser de moi? Qu'est-ce que les gens dans le monde pensent de moi? Ça peut nous paralyser. La peur du succès. Combien savent que même la peur du succès peut être une peur réelle? Ah ben moi, je ne veux pas faire grand-chose, je ne veux pas avoir de succès, puis je ne sais pas ce qui va arriver dans ma vie. On a peur de nous-mêmes, on a peur d'avoir du succès, de peur de tomber. Une chose est certaine, simplement, si tu ne fais jamais rien, il n'y arrivera jamais rien. La peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu fonctionner ou ça ne fonctionnera pas? Watoto, ça marchera-tu? Je pense que c'est des choses réelles. Il y a des gens qui vont s'empêcher même d'inviter des personnes de peur que ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont s'arrêter peut-être d'aller dans certaines directions parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. La peur d'être rejeté. Oh, il n'y a pas personne qui veut être rejeté parmi nous. Ah, mais moi, ça ne dérange pas. Non, ça dérange. La peur de ne pas être assez bon. De ne pas être à la hauteur. On a même des noms spécifiques pour différents types de peur. On a peur des espaces clos, la claustrophobie. On a peur des espaces ouverts, agoraphobie. On a peur de prendre l'avion, aviophobie. On a peur des hauteurs, acrophobie. On a peur des situations sociales, la phobie sociale. On a peur de parler en public, la glossophobie. Oh, moi, je ne veux pas parler devant les gens. Oh, je n'aimais pas ça parler à l'école, je n'aimais pas ça parler devant les gens. Ça, c'était moi. La glossophobie, la peur des animaux, la zoophobie. La peur des oiseaux, l'ornithophobie. La peur des serpents, ophidiophobie. La peur des araignées, oh, ça en est une grosse. L'arachnophobie. La peur des clowns, c'est vraiment une phobie simplement. Coulrophobie, la peur du sang. Ah, oh, moi, je ne peux pas voir du sang. Les gens vont dire ça. L'hémophobie, peur des aiguilles, la trypanophobie, la peur du tonnerre. On me souvient de ma grand-maman, peur du tonnerre. Astraphobie, la peur de la mort, la thanatophobie. Wow. Dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont eu peur. Des peurs qui sont réelles. Et peut-être même dans les noms que je viens de lire, on peut s'associer des choses. Ça veut dire, ah, moi, c'est moi, ça. J'ai marqué ici dans mes notes, attention, attention, attention. Car sous la peur, on peut faire des mauvais choix. Si la peur ne vient pas de Dieu et qu'on écoute cet esprit de peur, on reconnaît que la peur ne vient pas de Dieu. Si on écoute cet esprit de peur et qu'on base nos décisions dirigées par la peur, serait-ce possible que cela nous apporte dans des directions opposées à la volonté de Dieu? Si on laisse la peur diriger nos décisions, serait-ce possible que cela nous apporte dans des directions opposées de Dieu? Adam et Ève ont eu peur dans le jardin d'Éden. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Le péché va ouvrir la porte à la peur de venir dans nos vies. Le péché ouvre la porte à la peur de venir dans nos vies. Le péché va te donner une image de Dieu qui est tordue. J'ai eu peur de toi, oh Dieu. Je me suis éloigné, je ne veux rien savoir, je me cache de toi. Au lieu de t'approcher de lui, tu vas te cacher. La peur va nous faire en sorte qu'on se cache de Dieu. C'est une image tordue que l'ennemi met en nous. Ça pourrait-il que Jonas s'en alla dans la direction opposée que le Seigneur lui avait donnée due à la peur? Lève-toi, va à Ninive, à la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il ne voulait pas aller à Ninive. Parce qu'à Ninive, il savait le peuple qui était là. C'était méchant. Ils ont ouvert, en anglais on dit « stripper ». Ils attachaient les gens par les pieds, la tête en bas, puis ils les plumaient, ce qu'on pourrait dire, vivants. C'est ce genre de peuple-là. Et tu m'appelles à aller prêcher l'Évangile à ces gens-là? Ils s'en vont dans l'autre direction. Jacob a eu peur de son frère Ésaü. Et peut-être qu'il avait raison d'avoir peur parce qu'il l'avait vraiment trompé. Il avait volé sa bénédiction. Moïse a eu peur d'aller devant Pharaon, dû à son parler. Ah, pas moi, Seigneur, utilise mon frère. Utilise Aaron. Lui, il sait comment. Il a de l'élocution. Il sait comment se présenter devant les autres. Il a eu peur. Élie a eu peur de Jézabel. Tel point ça l'a porté dans un temps de découragement et même pensé à mourir. Gédéon avait peur de Madian. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il était caché dans un pressoir, il était là simplement, il faisait du travail, mais il se cachait, il avait une peur qu'il était là. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Malgré tes peurs, malgré tes craintes, malgré les défis de la vie, tout ça, combien savent que Jésus, que Dieu voit au-delà de ça, puis il veut se révéler au milieu de nos peurs et de nos craintes. Alléluia. On vit tous des peurs, on vit tous des craintes, on est tous confrontés à des choses dans nos vies, mais l'Esprit de Dieu veut agir et veut révéler ces peurs-là et veut nous libérer de ces peurs-là. Pierre a renié le Seigneur, Dieu a la peur. Luc 22, 54, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que Pierre suivait de loin. Il ne voulait pas trop s'identifier à Jésus. Il avait, qu'est-ce qui va arriver? Elle a simplement, devant une servante, simplement, elle dit, « Ah ben, n'étais-tu pas toi avec lui aussi? » Et là, il commence à maudire son Dieu. Il commence simplement à dire des paroles et tout ça, et non, je ne le connais pas, comment juste à blasphémer. La peur va te faire faire des choses que tu ne feras pas en temps normal. Les disciples de Jésus, après la résurrection, ils avaient de la peur. Ils se cachaient entre les quatre murs de la maison en cause de la peur. Combien savent qu'en cause de la peur, on peut s'enfermer sur nous-mêmes? À cause de la peur, on peut se cacher dans les quatre murs d'une église. On peut devenir tellement confortable dans les quatre murs d'une église qu'on n'ose même plus parler de Jésus à l'extérieur. À cause de la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de mon statut social? Après tout, je suis quelqu'un qui... On peut se cacher comme ça dans nos familles, entre les quatre murs. On ne parle plus de Jésus dans nos familles. On se cache dans les quatre murs, dans nos raisonnements, dans nos cœurs. Les disciples, c'est-à-dire le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus, au milieu de cette situation-là, Jésus est venu simplement, et c'est-à-dire après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, alléluia. » Il y a quelque chose qui se passait en eux, mais l'Esprit de Dieu est venu contrecarrer l'œuvre de la peur qui était en eux et il a soufflé sur eux. Il y a eu une interaction de la vie de Jésus qui a commencé à se passer dans le cœur de la vie de ses disciples-là. Il y a eu une intervention de l'Esprit de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, dans leur pensée. Peur de... On se cache. Ne laisse pas la peur déterminer qui tu es et la direction que tu vas prendre. Parce qu'on va tous vivre des peurs, des craintes et tout ça, mais ne laisse pas la peur déterminer qui tu es en Jésus et laisse pas la peur déterminer la direction que tu vas prendre dans ta vie. Fais attention à l'esprit de peur dans ta vie et dans ma vie. Sous la peur de l'ennemi, le roi Saül simplement a décidé de faire un sacrifice qui ne lui appartenait pas en cause que ça prenait trop de temps avant que Samuel arrive. Sous la peur de l'ennemi, sous la pression de l'ennemi, parfois on fait des mauvais choix en cause. On dit que le temps est arrivé où j'ai pas assez de temps, et en cause du temps, simplement, on fait des choix, on se retrouve les pieds à mauvais endroit, on fait des choses simplement qui ne nous est pas revenu à nous de faire. Et Saül simplement a décidé de faire un sacrifice alors que c'était à Samuel de faire ce sacrifice-là. Il s'est mis les deux pieds dans les plats. Il a perdu la bénédiction de Dieu sur sa vie en cause simplement de la peur de l'ennemi. Il a commencé à agir. Attention à pas au sacrifice qu'on peut faire, mais à cause de la pression, il a décidé de le faire. Attention de ne pas faire des choix qui ne sont pas de Dieu lorsque ça prend plus longtemps que prévu. Samuel est arrivé pas longtemps après qu'il a fait le sacrifice. Et il a perdu la bénédiction de Dieu en cause de ça, parce que c'est à Samuel de faire le sacrifice. Sous la peur des épreuves, ne pas être comme la femme de Job, sous la peur des épreuves. Alors qu'il parle d'une épreuve, Job. Mais sa femme, on ne parle pas souvent de la femme de Job, mais elle dit, « Maudit Dieu et meurt. » Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. Sous la pression des épreuves, il faut faire attention à ce qui sort de nos lèvres. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent ressortir de ce qu'on déclare de nos vies. Il y a des malédictions aussi qui peuvent se prononcer au travers des épreuves. Sous la peur de l'inconnu. Les Hébreux, simplement, voulaient retourner en Égypte à nouveau puis manger ce qu'on était confortable de manger en Égypte, sous la peur de l'inconnu. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait et tout ça. Et on va, alors, simplement, qu'ils savaient que la nourriture ne venait pas comme qu'ils pensaient. Et là, ils voulaient retourner en Égypte. La peur de l'inconnu, parfois, va nous faire faire des choses, des choix qu'on veut retourner en arrière. Alors que l'Esprit de Dieu nous appelle à aller de l'avant. Sous la peur des géants, faire attention ou faisons attention à ce qu'on écoute et à ce que qu'on écoute qui rentre dans nos oreilles, qui rentre dans nos cœurs. Faire attention, parce que la peur des géants peut couper bien des bénédictions dans nos vies. La majorité peut te faire perdre la bénédiction de Dieu dans ta vie. 12 espions ont été dans le terrain. 12 espions ont été explorés. 12 espions ont été voir ce qui était sur ce que Dieu voulait leur donner. Et on connaît l'histoire que 10 ont revenu avec un mauvais rapport, mais 2 avaient un bon rapport. Caleb et Josué, simplement. Dieu est avec nous. L'Éternel Dieu est avec nous. Allons, emparons-nous du pays. Ils ont fait un esprit différent. Mais les 10, simplement, ça l'a affecté, pas juste eux, mais ça l'a affecté le peuple de telle sorte que juste Josué et Caleb ont entré dans la terre promise. La leçon pour nous de là-dedans, sous la peur des géants, on peut s'empêcher d'entrer dans les bénédictions de Dieu pour notre vie. Puis sous la peur des géants, on peut s'empêcher d'entrer dans les victoires que Dieu a déjà payées pour nous au calvaire par le sang qui a été versé. Puis en cause de la peur des géants, en cause de la peur de quelqu'un d'autre peut dire sur ta vie, en cause que quelqu'un d'autre déclare quelque chose, et on se laisse embourber, on se laisse influencer. Et c'est là, tout ce temps-là, l'Esprit de Dieu dit, j'ai payé le prix à la croix pour toi, avance. Avance dans ma présence, avance dans ma bénédiction. L'apôtre Paul a dû encourager Timothée. Je vais terminer dans quelques instants. L'apôtre Paul a dû encourager Timothée. Et le jeune Timothée qui a grandi dans les choses de Dieu, que sa grand-maman était une femme de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Timothée? Il dit, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité. La version française nous dit ça, mais lorsqu'on regarde dans la version anglaise, tu n'as pas reçu un esprit de peur. You have not received a spirit of fear. Tu as reçu un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, Timothée, laisse-toi pas gouverner ta vie par cet esprit de peur. Mais Timothée, ce n'est pas ce genre d'esprit que tu as reçu. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Laisse-toi guider par ça. L'esprit que tu as reçu, Timothée, est puissant. Ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. En d'autres mots, laisse pas cet esprit gouverner ta vie. Au début du message, j'ai lu une citation qui disait que face à certaines situations, face à la peur que des hormones de stress étaient relâchées dans le corps et là aussi au cerveau, vous vous souvenez? Si qu'il y a des relâchements, des hormones, des choses qui sont relâchées face à la peur, si par la peur des choses sont relâchées dans nos corps, des hormones de stress, écoute bien ça, la foi aussi relâche des choses dans nos corps qui affectent notre esprit, notre corps et notre cerveau. La foi relâche des choses en toi et en moi. La foi relâche l'œuvre du Saint-Esprit en toi et en moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienfaillance. Par la foi, il vient qu'il y ait des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. La foi va relâcher quelque chose dans ton esprit, mon frère et ma sœur. Alléluia. La foi va relâcher des choses dans ta santé. La foi va relâcher des choses dans ton cœur. La foi va t'aider à reprendre vie. Alléluia. Jairus a dû marcher près de Jésus et Jésus a même fait sortir des gens de sa maison. Au début du message, on a commencé avec Marc chapitre 5, que c'est le moment alors que Jairus demande pour une requête, il demande pour la guérison de sa fille, et alors qu'il arrive là, Jairus, par la foi, s'est approché de Jésus. Mais Jairus, dans sa situation, même Jésus, il a dû vouloir que des gens qui sortent de leur maison, des gens qui quittent leur maison, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Il y a des choses dans nos vies que parfois, qu'on doit se séparer d'eux, simplement, parce que ça va apporter ils fonctionnent dans l'esprit de peur et qu'on doit fonctionner dans l'esprit de foi. On doit se séparer de certaines choses dans nos vies parfois, si on veut expérimenter la foi et la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses qui doivent sortir de ma maison, simplement. Des choses que j'écoute, que j'entends. Des choses qui doivent sortir de ma maison si je veux vivre la vie et la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a des choses qui doivent sortir de nos églises. Simplement, que je parle des fois des attitudes de cœur, des émotions, des choses simplement qu'on a vécues, des expériences du passé, du désappointement, de la colère, tout ça, qu'on doit kicker out et dire, Seigneur, je veux marcher dans l'esprit de l'amour de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Je veux marcher dans sa présence. Je veux marcher avec lui. L'inquiétude, Corrie ten Boom a dit un jour, l'inquiétude est un cycle de pensée inefficace qui tourbillonne autour d'un centre de peur. On peut mettre la musique tout doucement, s'il te plaît. L'inquiétude est un cycle de pensée inefficace qui tourbillonne autour d'un centre de peur. Watchman Nee dit, la foi ne regarde pas ce qui lui arrive, mais à celui en qui elle croit. La foi ne regarde pas ce qui lui arrive, mais à celui en qui elle croit. Woodrow Kroll, il dit, « Le seul antidote connu à la peur est la foi. » Et il a dit aussi, Woodrow Kroll, il dit, « Êtes-vous confronté à la peur aujourd'hui? » Peut-être avez-vous peur de perdre votre emploi, de développer un cancer ou d'être abandonné par votre conjoint. Parfois, nous ressentons tous de la peur, qu'il dit, mais ne laissez pas la peur vous empêcher d'être utilisé par Dieu. Il vous a gardé jusqu'à ici, faites-lui confiance pour le reste du chemin. John Piper dit, « La présence de l'espérance dans la souveraineté invincible de Dieu chasse la peur. » La présence de l'espérance dans la souveraineté invincible de Dieu chasse la peur. Rick Warren dit, « La peur est une prison que vous vous imposez vous-même et qui vous empêchera de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous devez agir contre cela avec les armes de la foi et de l'amour. » Alexandre McLaurin dit, « Seul celui qui peut dire, « Le Seigneur est la force de ma vie » peut dire, « De qui aurais-je peur? » Florence Nightingale dit, « On ne peut pas faire grand-chose dans un esprit de peur. » Francis Frangipane dit, « Bien-aimé, dis-je, laisse tomber tes peurs, de peur qu'elles ne te découragent. Arrêtez d'inspirer la peur à ceux qui vous entourent. Et maintenant, prenez position avec foi. Dieu a été bon et il continuera à manifester sa bonté. Abordons ces jours en nous attendant à voir la bonté du Seigneur se manifester. Soyons forts, ayons bon courage, car le Seigneur combattra pour nous si nous restons dans la foi. » Max Lucado, qu'on connaît plusieurs d'entre nous, il dit, « Répondez à vos peurs avec foi. » En terminant ce matin, la parole de Dieu nous dit, « La crainte ou la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, chasse la crainte. » Ce matin, faisons face à nos craintes et nos peurs. Avec l'Esprit de Dieu qui veut te donner la victoire, qui veut nous donner la victoire. Si tu as des craintes ce matin que tu dois affronter, j'aimerais qu'on se lève ensemble ce matin. Si tu as des craintes ce matin que tu dois affronter, venons dans la prière ensemble. Avançons-nous ce matin, qu'on puisse prendre un temps d'appel ce matin, qu'on puisse s'avancer ensemble pour prier, pour chercher, allons chercher notre victoire. Laisse l'esprit de force, d'amour et de sagesse venir sur toi. Sois absorbé par l'amour de Dieu qui chasse la crainte. Entends sa voix douce et cette voix ferme qui dit, « Ne crains pas, crois seulement. »